Parlerons bien sûr du 38e sommet des chefs d'État de l'Union africaine entre conflits dans l'Est de la RDC, élection du président de la Commission. Les chefs d'État ont du pain sur la planche ce week-end, une occasion également de redonner du crédit à une organisation qui affiche ses lacunes ces dernières années. Nous en parlerons avec notre invité d'ici une dizaine de minutes. Et s'il y en a un qui n'apprécie pas vraiment les institutions multilatérales, c'est bien Donald Trump. ONU, OMS, OMC, le président américain multiplie les attaques contre les organes internationaux, au point de peut-être signer la fin d'une époque, nous dira Bruno Daroux, RFI. Il est 5h42, tout de suite, les sports. C'est avec vous, Victor Missistrano, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et pour commencer, direction la République démocratique du Congo, le championnat de football redémarre ce week-end.
Une reprise dans un contexte d'incertitude liée à la guerre dans l'Est du pays. La phase retour de la première division débute. C'était le souhait de nombreux clubs, pour des raisons notamment financières. Et parmi les affiches cet après-midi, un derby entre l'Ubumbashi Sport et le TP Mazembe. Si les Corbeaux ont disputé leur dernier match il y a un peu plus de 2 semaines, ce n'est pas le cas de leurs adversaires du jour qui reviennent sur les terrains après 3 mois sans compétition, Pascal Mangala.
Plan de fortune, c'est comme ça qu'on peut qualifier le temps de préparation dans lequel s'est inscrit l'Ubumbashi Sport, à en croire son entraîneur Ilunga Mukadi.
100 jours sans jouer, le traumatisme, ça va manquer. Mais on a cherché des matchs de préparation, nous croyons que les petits ont quelque chose dans le jambe.
Mais jouer Mazembe en ouverture de la phase retour a toujours un goût particulier, au point de faire oublier aux joueurs les difficultés de préparation. Fernando est un attaquant camerounais des kamikazes.
C'est vrai, même depuis qu'on a arrêté les championnats, on avait beaucoup travaillé. Je pense que tout le monde est en bonne santé. Et le coach aussi nous a demandé de respecter les consignes et rester concentré. On est frais. Si on est ici, c'est pour jouer le match et on est prêt pour jouer ce match.
Pour le président du club, Pichizonde, les multiples arrêts du championnat sont pour lui un gros cauchemar.
Parce que je finance cette équipe avec l'épargne de mes propres enfants. Et c'est dur, je n'ai rien obtenu, même pas $1. Ça c'est triste, mais mon objectif c'est d'investir sur le capital humain, dans le potentiel de la jeunesse. C'est ça qui me motive.
Pour d'aucuns, l'Ubumbashi Sport peut tout de même faire valoir du haut de ses 96 ans d'existence son statut de vieille dame de RDC pour rivaliser d'ardeur avec Mazembe. Pascal Mwangala, l'Ubumbashi RFI.
Coup d'envoi de ce match entre Lubumbashi Sport et Mazembe, 13h, temps universel.
On passe au basket, Victor, aux États-Unis. C'est un week-end de gala qui s'est ouvert à San Francisco.
Le All-Star Game de la NBA avec en point d'orgue dimanche le match des étoiles qui va opposer les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine. Le Camerounais des Indiana Pacers, Pascal Siakam, sera de la partie. Ce sera la 3e fois de sa carrière. Son compatriote des New Orleans Pelicans, Yves Missier, espère limiter un jour. Il était lui attendu cette nuit pour le Rising Star Challenge où se retrouvent les meilleurs jeunes de première et deuxième année de NBA. Mais le pivot de 20 ans a finalement dû déclarer forfait au dernier moment en raison d'une blessure au genou. Il a tout de même profité de l'événement. On l'écoute.
C'est toujours trop sympa pouvoir jouer ce genre de match. Un événement comme le All-Star Game, c'est un grand événement pour le basketball en NBA, surtout dans le monde entier. Du coup, c'est pas facile, mais bon, ça fait quand même plaisir d'être là et de pouvoir toujours sentir l'environnement. Il y a aussi Siakam qui l'a joué et il joue encore cette année. Du coup, c'est incroyable pour lui aussi. J'espère que je pourrai le voir aussi et lui dire salut et tout. Ah, beaucoup plus de joueurs africains, de joueurs asiatiques, ça fait plaisir.
Le basketteur camerounais Yves Missi au micro de Théo Quintard.
Victor Missistrano pour les sports. Il est 5h45 ici à Paris. Nous prenons tout de suite la direction du Soudan du Sud. Pour le deuxième volet de notre série de reportages sur l'épidémie de choléra qui touche le plus jeune pays de la planète. Nous sommes ce samedi dans un quartier de l'ouest de la capitale, Jouba, Jebel Timan, pour rencontrer une famille endeuillée par la mort de l'un des siens. Ce quartier est l'un des endroits où l'épidémie de choléra se poursuit malgré une campagne de vaccination et des efforts de la part des autorités sanitaires et de l'ONG MSF pour informer la population. En cause notamment l'absence de système d'assainissement, l'accès quasi inexistant à l'eau potable, mais aussi la présence d'une immense déchetterie située en plein cœur de la zone résidentielle. Reportage Florence Mieto.
Accroché à une colline rocailleuse, le quartier de Jebel Timan est peuplé de maisons en bambou et en torchis. Des habitations à étages se dressent aussi ça et là, inachevées, dans ce quartier qui reste l'un des plus sous-développés de la capitale sud-soudanaise. Un quartier toujours en proie à l'épidémie de choléra. En janvier, Albino Diari Warnyang, le pasteur de la communauté, a brutalement perdu son frère de 75 ans à cause de la maladie.
C'est arrivé le 13 janvier. Il a commencé à être malade à 4 heures du matin et il est mort le même jour à 15 heures. Nous l'avons emmené dans une clinique à 6 heures du matin et lui ont donné 7 perfusions d'affilée. Puis le docteur nous a dit de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Mais une fois qu'on est arrivé chez nous, il est mort.
Une campagne de vaccination s'est déroulée fin janvier dans la communauté et la famille proche d'Albino Diary Warniang a été vaccinée. Mais le pasteur reste inquiet.
Nous restons vigilants car le choléra est toujours parmi nous et il y a encore des gens qui n'ont pas été vaccinés.
Si personne ne sait exactement comment le choléra est arrivé jusqu'ici, les premières victimes ont été rapportées parmi les nombreux récupérateurs de déchets qui survivent en fouillant dans l'immense décharge située en plein cœur de Djebel Timan. 3 d'entre eux sont morts au mois de décembre. Mathieu Boya, le chef traditionnel du quartier, souhaite la fermeture de ce site.
Les quartiers de Djouba qui n'ont pas de déchetterie n'ont pas eu autant de cas de choléra. Mais nous, ici, nous avons eu beaucoup de cas et des gens sont morts. Hier encore, un homme a dû être emmené au centre de traitement du choléra de Gouréi.
Il est d'autant plus difficile de contenir l'épidémie qu'il n'y a aucun système d'assainissement à Djebel Timan et un seul puits d'eau potable payant pour plus de 6000 personnes. L'immense majorité des habitants boit l'eau de puits creusée dans la terre, comme ce celui que nous montre Justin Passy Major, un voisin. Une sorte de flaque d'eau profonde entourée de pierres et d'herbes au bord de laquelle traînent des bouteilles en plastique.
L'eau elle-même est propre, mais si par exemple des chèvres viennent boire ici, elles peuvent contaminer l'eau avec des bactéries. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barrière autour du puits. Mais si on pouvait en construire une, creuser plus profond et utiliser du chlore, alors on serait protégé.
Les appels de la communauté pour la construction de nouveaux puits, de latrines ainsi que pour la fermeture de la déchetterie sont pour l'instant restés sans réponse. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Et le dernier épisode de cette série de reportages sera retrouvé dès demain, Florence Mietto, au plus près de ces ramasseurs de déchets particulièrement exposés à la maladie. Il est 5h49 ici à Paris.
RFI, toute l'actualité, Pierre Boudias.
Une de ce samedi 15 février, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, la journée a été marquée par une nouvelle avancée du M23. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a pris le contrôle de Kavumu, la ville de l'aéroport de Bukavu, avant de prendre la direction de la capitale de la province du Sud Kivu, où des hommes du M23 ont été vus en début de soirée. Félix Tshisekedi, le président congolais, est lui rentré en urgence à Kinshasa. Il participait à Munich à la grande conférence internationale qui s'achève aujourd'hui. Il sera donc pas physiquement à 17 Abeba au sommet de l'Union africaine. La conférence sur la sécurité de Munich, où hier les débats y ont été dominés par la situation en Ukraine, alors que les États-Unis poussent pour des négociations de paix entre Kiev et Moscou. C'est ce qu'a répété le vice-président américain à Volodymyr Zelensky, le chef de l'État ukrainien, qui lui a affirmé que son pays avait peu de chances de survivre sans le soutien de Washington. J.D. Vance, qui s'est également entretenu avec le chef du parti d'extrême droite allemand AFD, a fustigé le recul, selon lui, de la liberté d'expression sur le continent européen. Et comme chaque samedi, nous retrouvons Bruno Daru pour sa chronique Le Monde en question, Ukraine, Palestine, commerce. Un homme à la une depuis le début de l'année, Donald Trump et ses déclarations choc. Le président américain qui multiplie également les initiatives et les attaques contre les institutions multilatérales. Un assaut en règle qui pose cette question. Bruno, sommes-nous en train d'assister à l'effondrement de l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale?
Eh bien, en tout cas, cet ordre fondé sur des institutions internationales et multilatérales est sérieusement ébranlé par les coups de butoir de certains dirigeants issus de régimes autoritaires comme Vladimir Poutine ou de systèmes démocratiques comme Donald Trump. L'ordre créé en 1945 avec la création de l'ONU et de nombreuses autres organisations avait pour but d'éviter ou d'atténuer les conflits entre États en s'appuyant sur un corpus de principes regroupés sous le terme de droit international. Depuis cette époque, cet ordre a plus ou moins bien fonctionné. Il n'a pas empêché de nombreux conflits, mais les institutions n'étaient pas globalement contestées. C'est cela qui a changé depuis une quinzaine d'années et qui s'accélère aujourd'hui avec une ONU quasiment impuissante, attaquée par certains pays, soit pour être inefficace, soit pour défendre les intérêts du monde occidental, et avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le retour d'une confrontation entre empires russes, américains, chinois et la préférence systémique accordée à la négociation bilatérale.
Bruno, comment expliquer cette détestation de Donald Trump pour le multilatéralisme ?
Eh bien, il y a au moins deux raisons qui expliquent ce positionnement. Il pense d'abord que ces organisations sont lourdes, inefficaces et bavardes. Dans son logiciel d'homme d'affaires, tout cela ne peut conduire qu'à des demi-mesures, voire au statu quo. La deuxième raison, c'est que Trump pense que les États-Unis payent beaucoup trop pour les autres au sein de ces organisations. Qu'il s'agisse de l'ONU ou de l'OTAN, le refrain est toujours le même. Nous payons trop, il faut rééquilibrer tout cela. D'où sa décision également de suspendre l'aide à l'étranger via USAID. Et puis enfin, il est sur un mode viriliste sur le thème « on va se parler d'homme à homme, à deux, entre personnes importantes, et cela fonctionnera ». Ça n'a pas été vraiment le cas lors de son premier mandat avec Xi Jinping ou Kim Jong-un, mais il recommence, cette fois, avec Vladimir Poutine. Le résultat, c'est que le représentant de la première démocratie du monde s'aligne sur des positions qui mettent à mal les principes du droit international, notamment sur les frontières, et assume cette loi du plus fort au mépris de ses alliés et en permettant du coup aux dirigeants autocratiques de penser qu'ils peuvent eux aussi s'en prendre à tel ou tel territoire en quasi-impunité. Oui, le multilatéralisme est moribond, la loi de la jungle ou du Far West, comme on voudra, revient à grands pas et laisse augurer des temps bousculés.
Bruno Darou, le monde en question à retrouver chaque samedi sur nos antennes et en replay sur RFI.fr. Nous en parlions largement dans le journal de 4h30 temps universel. C'est l'une des grandes actualités du week-end. Le 38e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ça se déroule à Addis Abeba en Éthiopie. Conflit en RDC, guerre au Soudan, terrorisme au Sahel. L'organisation qui se choisit un nouveau président de commission est de plus en plus critiquée pour son impuissance face aux crises qui secouent le continent. Alors comment expliquer sa faiblesse? Comment relever ses défis? Pour en parler, Lisez-Lou Vaudran est chercheuse à l'ICG, spécialiste de l'UA. Elle est l'invitée de Florence Maurice.
Bonjour Lisello.
Bonjour.
Lors de son premier discours d'adieu mercredi, Moussa Faki Mahamat a invité les chefs d'État de l'Union africaine à se ressaisir. Il s'est montré inquiet pour la survie de l'organisation. Est-ce que le rêve d'une institution panafricaine forte est menacé aujourd'hui?
C'est vrai que nous voyons ces dernières années des États qui ne voient franchement pas l'intérêt de l'Union africaine pour eux, pour les processus de paix. Donc ce sont des organisations régionales qui pour la plupart gèrent les conflits dans leur région. Nous avons 6 États suspendus de l'Union africaine à cause des coups d'État. Il y en a peut-être un ou deux qui éventuellement vont revenir, mais surtout les États de l'AES maintenant sont isolés et nous voyons le dialogue entre l'Union africaine et ces États ne sont pas vraiment entamés. Donc je pense que l'Union africaine de son côté n'a pas montré vraiment son efficacité.
Comment expliquer cet affaissement?
On peut critiquer Moussa Faki Mahamat et son staff de ne pas avoir été vraiment en avance, par exemple sur le conflit du Soudan. C'est le conflit avec l'impact humanitaire le plus grave au monde, mais on n'en parle pas. Au minimum, on aurait voulu voir l'Union africaine mettre l'accent sur ces graves conflits dans toutes les réunions à l'ONU, dans les réunions internationales, mais aussi, bien sûr, nous sommes dans un contexte international où le multilatéralisme vraiment est en crise. Donc, c'est pas totalement aussi le faute de l'Union africaine, mais d'autres facteurs internationaux.
Est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis rend l'Union africaine encore plus seule face à tous ces défis?
C'est vrai que c'est très inquiétant parce que c'est un peu imprévisible. On ne sait pas quel va être l'impact, par exemple, sur la force de l'Union africaine en Somalie, qui dépend beaucoup de financement de l'ONU. Et les États-Unis sont un grand financement du budget des opérations de paix de l'ONU. Ça peut avoir un impact, mais ça ne va pas vraiment avoir un impact direct sur l'Union africaine en tant qu'organisation.
Au cœur de ce sommet, il y a bien sûr le conflit dans l'est de la RDC, avec un risque de déflagration régionale. Le Conseil paix et sécurité a entériné hier la fusion des processus de Luanda et Nairobi. Est-ce que c'est une bonne idée ?
C'est une bonne idée s'il n'y a pas trop d'initiatives parallèles, trop de médiateurs. Et l'inquiétude, c'était un peu que le processus de Luanda ne disparaisse, parce que l'EAC, à un moment donné, voulait un peu que le processus de Nairobi soit le seul processus. Donc, convaincre la RDC de dialoguer avec le M23. Mais nous pensons aussi que c'est aussi important. C'est le processus de Luanda, parce que c'est le dialogue entre la RDC et le Rwanda qui, aujourd'hui, le Rwanda soutient le M23.
Mercredi, le Rwanda a échoué à obtenir le poste au sein du Conseil Paix et Sécurité que le pays briguait. Le Rwanda est arrivé troisième derrière l'Éthiopie et la Somalie. Est-ce qu'il faut y voir une forme de sanction de la part des États membres?
C'est possible. C'est vrai que le Congo, RDC, est toujours un membre pour 2 ans. Donc, si le Rwanda s'est joint au Conseil de paix et de sécurité, ça aurait été une opportunité pour le Rwanda d'éventuellement bloquer d'autres initiatives du Conseil de paix et de sécurité. Le Rwanda, depuis beaucoup d'années, très influent ici à l'Union africaine, surtout le président Paul Kagame qui gérait les réformes de l'Union africaine. Et donc, on peut voir ça éventuellement comme un manque de poids et de l'influence, mais il faut aussi se rendre compte que c'est un jeu parfois des États. Donc, les autres membres peuvent... par exemple, soutenir un candidat pour un commissaire en échange d'un vote au CPS. Donc, on peut pas déduire toujours que par exemple, un pays a perdu de l'influence parce qu'il a pu gagner ailleurs. Mais quand même, je pense que le Rwanda devrait pas être content de ne pas avoir été élu.
Et à noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu à la tribune dès l'ouverture de ce sommet dans quelques heures. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée ce matin par Xavier Besson. Lorraine Nemossa était avec moi en studio pour la réalisation. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité africaine. Dans un instant, RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem.
RFI, la sélection du mois.
Young Franco.
Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits.
Koutou.
RFI Musique.
Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site rfi.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.